Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débat et conférence publique organisée par les partenaires de Tchat.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un hors-série de l'émission Dig Dig Diggers, ayant pour thématique « Les musiques actuelles ont-elles encore besoin des radios ?» C'est une rencontre animée par Bastien Hénard de Radio Méga avec Xavier Le Boursicot, directeur de la Ferrarock, Jean-Philippe Béraud, attaché de presse pour l'agence Martingale, Anne-Laurence Chambon, directrice du label Carton et coprésidente de Grand Bureau, et Judith Sorel, chargée de communication du label Durédou. Bonne écoute.
Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette hors-série de Dig Dig Diggers, l'émission de la Ferrarock. C'est Bastien de Radio Méga à Valence au micro. Nous sommes en direct de la Cordo, scène des musiques actuelles à Romans, et ce pour fêter les 40 ans de notre radio. Belle longévité pour une radio locale associative. Mais en 40 ans, le paysage médiatique a été chamboulé par l'arrivée d'Internet et des plateformes de streaming. L'écoute de la musique a été profondément modifiée. La question qui se pose aujourd'hui et sur laquelle nous allons échanger est la suivante. Les musiques actuelles et la musique en général ont-elles besoin, encore besoin, de la radio ? Avant de vous présenter mes invités, qui sont présents sur le plateau et je les remercie, ils sont quatre, je voudrais vous faire part d'un échange avec un élève de CM2 lors d'un atelier pédagogique autour des médias. À la question « Quelle radio connais-tu ?», sa réponse a été la suivante, « Deezer ». Il ne pouvait donner meilleure introduction au débat à venir. Pour échanger aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Judith Sorel, chargée de communication pour le label Dur et Doux. Bonjour Judith.
Bonjour.
Anne-Laurence Chambon, directrice du label Carton. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Philippe Béraud, attaché de presse, dirigeant de Martingale. Bonjour.
Salut, présent.
Et Xavier Le Boursicot, directeur de la Ferrarock. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous quatre d'être présents à ce micro. Alors, un cinquième invité n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Baptiste Roch, journaliste à Télérama. Il est l'auteur avec Élise Rack d'un article sorti en février 2002 sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter tout de suite pour ouvrir cette émission.
Alors, les radios, dans ce paysage renouvelé, ont d'une certaine manière l'obligation de se repenser, avec des différences évidentes entre les radios commerciales, les radios de service public et les radios associatives, par exemple. Une radio comme Skyrock a pris le parti de surfer sur la vague des succès du net, à tel point qu'aujourd'hui, la programmation de Skyrock puise directement dans le top 50 des plateformes de streaming. Le patron de Skyrock, Laurent Bounot, l'assume complètement. Hein. Il dit aujourd'hui que son boulot, c'est plus la fusée qui lance le titre, mais la station spatiale qu'il fait tourner encore et encore autour du globe, ce qui veut bien dire son rôle aujourd'hui. Les radios locales ont effectivement un rôle encore très important, même si on sait que les audiences s'érodent comme pour beaucoup, beaucoup d'autres, hein, même les radios nationales. Le rôle des radios associatives notamment, bah, c'est de faire vivre des œuvres qui n'ont pas forcément voix au chapitre sur des grandes radios type France Inter ou même Skyrock, hein, qui ont des cibles d'artistes très, très contraintes. Skyrock est sur le rap, France Inter est sur des artistes chantant français ou des artistes internationaux, mais beaucoup moins sur des artistes français chantant en anglais, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, les radios associatives, notamment la Ferrarock, par exemple, donnent une audience à ces artistes-là qu'ils n'auraient pas ailleurs. Quoi.
Alors, on est de retour sur le plateau, ici, à la Cordeau, à Romans, pour les 40 ans de Radio Méga. Et pour ce débat autour des musiques qui ont encore ou pas besoin des radios, on a entendu le journaliste de Télérama, Jean-Baptiste Roch, un article qui était sorti en 2022. Hein, j'avais dit 2002, mais c'est 2022 cet article, vous l'aurez certainement compris. J'ai avec moi notamment le directeur de la Ferrarock, Ferrarock étant une fédération avec 25 radios à l'intérieur. Il a parlé du rôle des radios associatives et notamment des radios de la Ferrarock. Avant de parler de ce rôle, comment les Ferra, toutes ces radios, se sont adaptées, alors au fil du temps, et peut-être il y a une vingtaine d'années, à l'arrivée d'Internet, et puis après des plateformes, mais déjà à l'arrivée d'Internet et du numérique?
Ben, les radios sont adaptées à l'arrivée d'Internet en déjà commençant toutes à émettre sur des flux web. Donc, elles sont passées du hertzien pour toutes à de l'écoute en IP. Donc ça a été le premier changement. Après, l'idée, ça a été de tenir un cap aussi, pas forcément de tout changer parce qu'un nouveau médium arrivait, de continuer aussi à faire de la prescription musicale humaine, puisque les plateformes de streaming sont arrivées pour mettre à disposition des catalogues gigantesques. On sait que maintenant, il y a 60 000 titres qui sortent par semaine sur Spotify, c'est gigantesque, mais ça reste un catalogue de l'adu disponible. Ce que proposent les radios, c'est aussi d'aller piocher, d'aller chercher des nouveautés, qu'elles soient à l'autre bout du monde ou extrêmement locales. Dans le cadre du travail des radios Ferrarock, l'idée, c'est de repérer localement particulièrement des nouveaux artistes ou des nouveaux groupes, et puis de les faire découvrir aux autres radios dans les autres régions pour qu'elles puissent elles aussi les diffuser et puis donner une tenait à faire entendre ces œuvres-là au niveau national.
Et une fois qu'elles ont été diffusées sur ces 25 radios avec qui donnent du poids, du coup, qui donnent du corps à ces artistes, on peut imaginer qu'on va plus loin sur d'autres radios et on peut devenir prescripteur des radios plus nationales presque.
Bah, ça serait peut-être plutôt aux labels et aux attachés de presse de donner un avis là-dessus. Nous on essaie de valoriser le passage des artistes sur nos radios en publiant notamment un classement mensuel qu'on appelle la Ferraliste qui recense les 100 albums, donc c'est un classement assez large, et que c'est pas des titres, c'est vraiment des albums. On tient à continuer à faire de cette façon-là, albums ou EP, qui sont les plus diffusés sur ces radios. Et voilà, on sait que ça peut avoir un vrai effet d'entraînement. Par moment, des gens qui n'ont pas été repérés par des médias nationaux vont par ce canal-là pouvoir argumenter d'avoir été validés en quelque sorte collectivement par pas mal de radios associatives qui sont prescriptrices entre elles déjà, mais qui peuvent du coup collectivement l'être aussi à l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on pense faire.
Alors, je vais juste retourner la chose et voir du côté de l'artiste. Il vient voir la Ferra, ça va l'arranger parce que derrière, il a les 25 radios et il a un seul interlocuteur, ce qui est quand même plus simple pour lui que d'aller voir tout le monde, et peut-être plus simple que d'aller voir, encore une fois, les plateformes et les grandes radios.
Nous, on est les récepteurs à cet endroit-là. Faudrait encore une fois vous demander aux attachés de presse ce qu'ils en pensent. Mais effectivement, parler en direct avec nous, on ne fait pas le travail à la place des radios. Elles existent toutes. On est une fédération dans laquelle il y a Radio Méga et 24 autres radios en France. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs couleurs, elles ont toutes leurs programmations, elles sont toutes différentes, elles ont du commun, elles se retrouvent entre elles, elles pensent se ressembler par endroits, donc c'est pour ça qu'elles sont ensemble. Effectivement, ça peut simplifier d'avoir un seul interlocuteur plutôt que 25, d'autant que dans toutes les radios, encore une fois, sont souvent des toutes petites équipes, beaucoup de bénévoles, et énormément de sollicitations parce qu'énormément de sorties, donc certaines choses peuvent passer un peu à la trappe ou avoir été oubliées ou pas vues ou pas entendues.
On va les entendre, les deux labels qui sont là, et puis aussi l'attaché de presse. Mais peut-être une réaction à ce qu'a dit, à ce qu'a dit Xavier, quand l'artiste va voir la Fera. C'est peut-être, est-ce que c'est plus simple d'aller là quand on est émergent que d'aller plus loin sur les plateformes, Jean-Philippe Béraud ?
Je pense qu'on va à plusieurs endroits en même temps, d'une part. Il faut quand même souligner que chaque programmateur a son indépendance, chaque radio a son indépendance. Donc, effectivement, dans le cadre d'un partenariat Fera Rock, on va soumettre à la commission et ça va être quand même écouté par tout le monde, ce qui n'empêche qu'il y a vraiment un travail à faire auprès de chaque radio, voire même éventuellement de chaque émission. Aller voir la Fera avant d'aller voir les plateformes, oui, dans le sens où c'est quand même le rôle des radios associatives et en particulier de la Fera Rock d'avoir une capacité à la découverte et on va dire une envie de faire découvrir, une envie de passer quelque chose sans se dire oulala, on va me taper sur les doigts, parce que qu'on le veuille ou non, côté radio commerciale en particulier, on dépend de revenus publicitaires, donc oulala, commencer à passer une nouveauté, on a peur. Et au fur et à mesure, ces radios commerciales ont un peu malheureusement habitué leurs auditeurs à n'écouter que toujours les mêmes choses. Résultat, ça devient de plus en plus difficile pour eux de starter, c'est-à-dire de démarrer, d'être les premiers à jouer des nouveautés. Là où les associatives n'ont pas ce problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à ce qu'on passe, qu'il n'y a pas des choix, mais en revanche, la sanction pub n'est pas là. Donc forcément, pour un artiste émergent, la Fera Rock fait partie des bonnes portes auxquelles frapper, bien entendu.
Anne Lorchambon, des artistes émergents, vous en produisez avec votre label Carton. Comment, justement, vous voyez ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de votre côté à vous, qui défendez l'artiste, comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors moi je le vois de façon différente, c'est-à-dire pour moi il y a la radio va aider l'artiste à se faire connaître et reconnaître et les plateformes vont aussi l'aider parce que pour nous il est aussi utilisé comme un outil, c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi là où on peut mettre la musique qui peut être facilement écoutable quand on essaie de trouver des concerts, des dates, en fait c'est ultra utile. Enfin voilà, moi je l'utilise aussi comme ça, comme un outil. Et la radio est utilisée pour voilà, pour moi les radios peuvent être prescripteurs, donc de passer en radio c'est une forme de reconnaissance, donc ça peut aider aussi, mais du coup je l'utiliserai pas de la même manière. Et c'est Anne Laurence,
bah oui bien sûr.
Non mais c'est pas grave.
On est sur la préparation de ses 40 ans. Il y a juste deux tas de petites choses à faire.
Un problème avec les prénoms composés, Jean-Bastien.
Merci Jean-Claude. Du coup c'est à Judith de peut-être nous dire. J'imagine que c'est chez Durée Douce, c'est peut-être un peu ce qu'a dit Anne Laurence. On va être sur la même ligne. En tout cas au téléphone, j'avais l'impression que vous étiez un peu sur la même ligne.
Par rapport à la différence entre
pour aller amener son artiste au devant des médias en fait.
Oui, en fait, les radios, elles sont intéressantes si on arrive aussi à avoir des émissions, des choses comme ça, où il y a un côté éditorial qu'on n'a pas sur les plateformes. Et donc, du coup, je rejoins un peu Anne Laurence sur aussi le côté technique, où on va les utiliser comme des outils pour faire beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Voilà, même si on a du mal à envisager toujours les retombées que ça va avoir, mais en tout cas on essaye de faire avec notre temps quoi, donc
ouais, c'est ça. Voilà, du temps contraint un peu comme tout le monde j'imagine. On a parlé tout à l'heure en préparant cette émission, Xavier, du jeune public aussi. Quel est l'avenir selon vous, de ce jeune public sur les radios, enfin, si tant est qu'il y en ait un.
C'est une question très large et puis qui concerne pas les radios associatives uniquement,
concerne toutes les radios.
Toutes les radios. On entendait, et c'était dans l'enquête de Jean-Baptiste sur Télérama, il rappelait que les derniers chiffres d'audience de la radio en cumulé fin 2021 annonçaient une baisse qui avait été une première depuis assez longtemps, avec notamment en 2020 une remontée par endroit pour certaines radios, notamment pendant les confinements. Cette baisse, elle peut sembler inquiétante, mais elle inquiète certainement surtout les gens qui vendent de la publicité, parce qu'en vrai, on parle encore quand même de 41 millions de personnes qui écoutent quotidiennement la radio, donc on est quand même loin d'être mort. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup plus de mal sur le flux, ou en tout cas l'écoute en continu de la radio sur la tranche des moins de 25 ans. On sait qu'il y a moins de gens qui suivent à cet endroit-là. Peut-être qu'ils y viendront plus tard, peut-être que c'est aussi pour ça que nous, on fait aussi attention. Tout à l'heure, tu évoquais la question de comment on s'est adapté à Internet, notamment dans les radios asso. Et je pense que toutes les radios et les radios associatives aussi, maintenant, proposent du contenu découpé aussi à la demande. On fait du... voilà, on l'appelle pas forcément podcast, parce qu'un podcast qu'on passe à la radio, finalement, ça devient une émission. Donc, c'est la même chose, mais on... On sait en tout cas que les moins de 25 ans sont moins présents et à nous d'aller essayer de les chercher de façon autre aussi. Et puis peut-être que c'est pas si grave et qu'ils écoutent de la musique différemment et qu'ils y viendront différemment ou par un autre moment.
Alors dans le sujet général, on a mis un peu la musique face aux radios et face au numérique et au streaming. En termes de modèle économique, peut-être que les radios, notamment celle de la Fera, ce qu'on disait tout à l'heure en micro, finalement c'est un peu, pas une bulle, mais c'est un modèle qui fonctionne mieux et qui a moins peur de ce tsunami quoi, finalement.
C'est vrai que comparé à certaines radios commerciales qui sont parfois vraiment sous pression, on connaît hein, aussi les autres acteurs de la radio, on n'est pas que entre nous. Et puis la diversité aussi de l'offre musicale, elle est aussi parce qu'il y a plein de radios différentes. Et puis si Skyrock fait Skyrock et si Énergie existe, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc aucun souci pour nous que ça existe dans la mesure où nous, on peut continuer à faire ce qu'on fait. Certaines radios commerciales, on sait qu'effectivement, si tu poses la question de l'économique, quand on obtient une forte rotation sur un artiste qu'on a produit, ça va générer des droits voisins, des droits d'auteur. Donc il y a aussi une pression à y être. Ne pas y être, c'est notamment un moment où on vend moins de disques. Puis d'autant plus, l'année dernière, on faisait moins de concerts. Il y a un vrai enjeu économique pour les producteurs à être visibles sur ces radios-là qu'ils n'ont pas avec nous. Puisque nous, dans les radios associatives en général, celle de la FERA et toutes les autres radios associatives en France, on ne génère pas grand-chose en termes d'assiette totale de droits à répartir entre tout le monde. Donc personne ne va s'enrichir en étant très diffusé dans une radio associative, d'autant que très peu de radios associatives font des fortes rotations. C'est intéressant, sur Énergie, on commence à gagner des sous quand on est en très très forte rotation.
Ça va à combien, rotation, c'est-à-dire le nombre de passages jour, en gros?
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Bon, ça dépend. Jusqu'à 12 passages jour, je crois que j'avais entendu ça, en tout cas, à une époque, je ne sais pas, Jean-Philippe, peut-être
une dizaine maximum.
Une dizaine, ok.
Vraiment, ça, la plupart, mais effectivement, c'est du 7-10, ce qui est quand même un certain bastonnage, ouais.
Ouais, effectivement,
on est pas mal. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, par exemple, la plupart de nos radios sont soumis à un quota de francophonie réduit, qui est autorisé dans la mesure où ils font de la découverte. Et nous, la plupart de nos radios ont un engagement vis-à-vis de l'ARCOM, ce qu'on appelait le CSA jusqu'à il y a quelques jours encore, qui est de diffuser au moins 1000 titres différents par mois, donc de jamais passer plus de 100 fois le même morceau, donc ça veut dire 3 fois par jour serait un maximum, mais très peu de nos radios le font, et de passer la moitié de nouveautés. Donc en fait, on n'est pas du tout une cible pour les gens qui cherchent de la diffusion radio pour générer de l'économie, ce qui nous libère de ces interlocuteurs-là, en fait.
On va écouter de la musique un petit peu, parce que quand même, vous êtes tous dans la musique, et on parle de musique aujourd'hui. C'est un morceau qui nous est amené par Jean-Philippe Béraud. C'est Julien Bouchard avec le titre « En nous », tout de suite dans cette émission spéciale Dig Dig Diggers.
Yeah.
On est de retour pour ce spécial Dig Dig Diggers en direct de la Cordo à Romans. C'est les 40 ans de Radio Méga et on est bien ici. Venez nous voir parce que ce soir, il y aura des concerts toute la soirée. Je vous redirai tout ça en fin d'émission et puis on vous l'annoncera bien sûr tout au long de cette soirée. Des interviews des groupes, bien entendu, des disques à vendre et des mix DJ. Vous n'aurez rien, il manquera rien ici ce soir, donc venez avec nous. Je vous propose pour continuer cette émission, avant de parler avec mes invités, de réécouter Jean-Baptiste Rock, qui est donc journaliste à Télérama. Il va nous parler d'un autre sujet qui va pouvoir faire la transition.
Alors, est-ce que l'attaché de presse est devenu l'attaché d'Internet ? Oui, en partie, mais par rapport à tous les interlocuteurs que j'ai eus, il revient quand même souvent que la radio a encore une place très importante dans les plans promo, et que même si certains artistes, par exemple dans le milieu du rap notamment, émergent souvent de plus en plus à la faveur des réseaux sociaux et sans forcément d'appui d'un attaché de presse ou d'un label, on voit bien chez tous les attachés de presse aujourd'hui, ils le disent, que la radio a encore un rôle très important à jouer, que passer en radio pour un artiste, c'est une validation symbolique absolument sans commune mesure, et que même pour une artiste comme Angèle, par exemple, elle s'y retrouve en termes d'image. Passer à la radio, c'est une validation.
C'est une validation de passer à la radio, c'est-à-dire qu'on peut se faire découvrir notamment via les réseaux sociaux, mais il y a la validation radiophonique derrière. Jean-Philippe Béraud, déjà sur ces réseaux sociaux, parce qu'on a parlé des plateformes, on a parlé du streaming, mais ces réseaux sociaux que sont Facebook et autres TikTok, est-ce qu'eux aujourd'hui, ils jouent pas le rôle de, alors pas d'attaché de presse ou d'attaché d'Internet comme on le disait dans le son, mais quel rôle ils jouent dans tout ça, dans ce nouveau modèle en fait ?
C'est à la fois une source et un amplificateur. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le réseau social, c'est quelque chose qui est préexistant à l'informatique. Je vais prendre un exemple qui date un petit peu et va m'obliger à une forme de coming out. En 99, pour essayer de placer des potes dont j'étais manager en première partie d'un groupe, on n'arrivait pas à se faire placer dans les salles du coin. On s'est dit, c'est pas grave, on va organiser le concert nous-mêmes, on va trouver des mecs qui sont un peu en train de monter, mais pas trop. Et comme ça, on va pouvoir se mettre en première partie. On a choisi un groupe qui n'était pas encore signé, qui était sur le point de signer, qui s'appelait Trio. Voilà, bon, voilà, j'ai organisé un concert de Trio, ça s'est fait. On coupera au montage. Ah, c'est du direct, mince. On est allé tracter à la sortie de notre ancien lycée. Moi, j'avais 19-20 ans, quelque chose comme ça. On est en 99, hein, donc c'est-à-dire qu'on est avant, on est même avant MySpace. On s'amène avec nos tracts. Tous les gamins connaissaient Trio. On veut faire une campagne avec Valley FM, qui était la Ferrarock du coin, dans mon coin de Seine-et-Marne, qui est malheureusement disparu, cette radio. On veut mettre en place notre petit spot. On n'a même pas le temps de faire le spot, qu'on a vendu tous les tickets. Qu'est-ce qui se passait ? Le réseau social du bouche à oreille, préexistant à l'informatique, faisait qu'on avait entendu parler de ce groupe, comme 2 ans avant, il y avait un phénomène sur Louise Attaque. La différence, c'est qu'effectivement, un trio ne passait pas en radio. Et il y a le même genre de choses aujourd'hui sur du hip-hop, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas en radio et quand même passent dans le bouche à oreille. Donc, pour répondre à ta question, les réseaux sociaux, pour nous, ça peut être des choses qui font sourdre, qui font arriver certaines propositions, mais je pense que ça se voit, ça s'explore surtout côté rap. Les majors sont en permanence à regarder quels sont les artistes qui ont une vraie fanbase pour dire, hey, toi, je te mets le grappin dessus, à tel point que là, bon, ils ont un peu chopé tout le monde, je pense. Pour nous, ça va plus être un outil pour donner d'autant plus d'envergure aux résultats promo qu'on peut avoir. Le fait qu'on ait un bon classement en Ferrarock, le fait qu'on ait même une chronique sur Télérama, j'ai une bonne chronique sur Télérama, c'est très cool en soi parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. En revanche, je sais que si je poste ça sur Internet, si je dis voilà, c'est chouette, on a eu ça comme résultat, ça va avoir d'autant plus d'impact. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi des amplificateurs. On ne peut pas imaginer chaque exposition isolément du reste. On peut remarquer par exemple que les gros labels ont une capacité à avoir accès à des playlists radio commerciales assez importantes. ils n'arrivent pas toujours à faire le travail de base vis-à-vis de radio associative, vis-à-vis de webzine, etc. Donc c'est toujours un tout, et ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque élément se centralimente.
Alors on va voir avec vous, Jean-Philippe Béraud, comment le métier d'attaché de presse il a changé. Mais vous me faisiez cette réflexion au téléphone, avant le numérique, on revient encore dans le passé, avant le numérique, la diversité des radios, dans les radios nationales, la diversité en soi, et tout à l'heure Xavier parlait de cette diversité qu'on peut avoir dans nos radios, notamment associatives, elle était déjà mise à mal. En fait, la diversité aujourd'hui, on voit quand même beaucoup les mêmes artistes dans tous les médias et beaucoup sur Internet. Mais à l'époque, elle était déjà mise à mal dans les radios nationales.
Il y a un mouvement général. À la fin de l'émission précédente, sur le débat, il était évoqué le moment où, avec la libéralisation des radios, il y a certaines qui ont fait le choix de devenir associatives, d'autres qui ont fait le choix de devenir commerciales. À partir du moment où il y a les recettes publicitaires, on se retrouve à avoir à faire un petit peu attention, à avoir une prise de risque moindre, éventuellement à faire du court-termisme qui fait qu'on prend de moins en moins de risques. Et c'est ça qui s'est passé, moi, en l'espace de... Voilà, ça fait 18 ans que je fais ça, j'ai quand même vu une évolution, y compris du côté du service public, par exemple. C'est-à-dire que ce qui se passe chez les uns va avoir de l'impact chez les autres. Les décisions vont être de plus en plus soumises à... à du collectif, pas dans le bon sens du terme, collectif dans le sens où au-dessus d'un programmateur, même en radio commerciale qui connaît bien son boulot, qui connaît ses audiences, qui a de la culture, vous allez avoir un directeur des programmes, un directeur de l'antenne, un directeur de TT animateur, on t'a mis là parce qu'on sait pas quoi foutre de toi, et qui vont dire « Oh oui, mais peut-être qu'on va pas rentrer ce nouveau truc et rentrer le 8e single de tel artiste déjà connu ». Au total, du coup, ça fait que on peut se retrouver à avoir, y compris le service public, qui va être un peu plus soumis à des demandes, il y a de la pression parce que RTL rentre moins de choses, Europe 1 rentre moins de choses, donc on va aller chez eux. Et ça se retrouve après, même dans les même au niveau, je pense, des radios associatives, il peut y avoir un peu plus de propositions aujourd'hui, a fortiori avec la dématérialisation, parce que envoyer un disque, ça coûte cher, envoyer du numérique, c'est fait en 3 clics.
Effectivement, c'est fait en 3 clics. Quelle est la différence dans votre métier, finalement, pour rentrer un titre comme vous le faisiez, le faire rentrer dans une radio, pour le faire rentrer aujourd'hui en streaming sur une plateforme? Qu'est-ce qu'on doit faire de différent?
Alors normalement, au départ, c'est pas forcément le boulot des attachés de presse, c'est plutôt le boulot du distributeur digital, comme le distributeur physique, hein. Celui qui va avoir le Auchan ou le Auchan ou le disquaire, vous avez l'équivalent, les Believe par exemple, qui vont aller voir Deezer, Spotify.
Mais vous y êtes mis.
Voilà, nous attachés de presse, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, connaître l'artiste, connaître son titre, c'est un petit peu la même chose de parler à un programmateur radio grâce à ça, ou de parler à un éditeur, ce qu'on appelle un éditeur, c'est une forme de programmateur. Des plateformes de streaming. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, sont eux-mêmes d'anciens journalistes, d'anciennes personnes de radio.
Que vous connaissez du coup.
Pour certains, j'ai déjà bossé. Là, je m'entends pas mal avec un éditeur de Apple Music qui était chez Nova, mais il était chez Nova avant que moi je travaille. Néanmoins, ça veut dire que leur identité, leur parcours, c'est pas des mecs qui sortent de l'informatique. Et que d'un seul coup on a mis à dire vas-y, choisis tes disques. Ce sont des gens qui connaissent la musique. La seule chose, c'est que leurs contraintes sont plus ou moins importantes, et dans certains cas elles sont quand même celles de d'une idée que les chiffres et les algos vont donner la vérité. En radio, même commerciale, oui, ils vont faire ce qu'on appelle des call-outs, c'est-à-dire des enquêtes pour dire alors est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous aimez ce titre, est-ce que vous l'avez trop entendu, mais ça se fait une fois de temps en temps. En streaming, il y a l'idée qu'immédiatement, ils ont le retour sur ce que pensent les gens. Ça peut être une illusion, parce qu'en réalité, encore faut-il déjà avoir proposer le titre est au bon endroit, et encore faut-il qu'on interprète correctement ses retours. C'est sûr que le taux de save, c'est-à-dire le fait que quelqu'un entende un titre dans une playlist et dise « Ok, je le mets dans ma bibliothèque », ça veut dire qu'il se passe, ouais, les gens l'aiment bien, il se passe quelque chose, s'il n'est pas beaucoup savé, c'est ok. Mais dans certains cas, il y a quand même une décision humaine à avoir, comme peut l'avoir un programmateur en radio, de dire « On le garde parce qu'on y croit ». Dans certains cas, en radio, y compris commercial, ils ont dit « Les chiffres sont pas encore bons, ouais, mais on y croit, on le garde », et finalement, ça marche. Donc l'immédiateté des chiffres et le côté très très clair des chiffres, ça peut être aussi une illusion.
Une illusion dans le chiffre, ça fait plaisir, hein, dans notre société du chiffre d'entendre ça. Il y avait un schéma du morceau Ferrarock, les radios Ferrarock, puis le Move, vous m'avez dit, et puis Europe 2 et RTL 2, c'est un peu les étages que vous identifiez à l'époque. Ça s'est écroulé tout ça. Aujourd'hui, un morceau, il va où, comment en fait?
Alors, j'évoquais ce qui se passait moi au début de ma boîte, au début du moment où je faisais de la promo, au milieu des années 2000, où effectivement il y avait quand même une certaine proximité entre différents étages, on va dire, pour un titre rock, ouais. Entre des radios, les deux réseaux de radio associatives, des FM à audience relativement limitée et des grosses FM plus mainstream, où il y avait, on va dire, des ponts, et puis ils pouvaient regarder un petit peu ce qui se passait chez les uns, chez les autres. Aujourd'hui, je peux avoir une Laetitia Sheriff, hashtag placement de produit, une Laetitia Sheriff qui sourit, a été numéro 1 du classement Ferrarock national de l'année. Bon, WeFM va y aller. Je n'ouvre même plus les portes de RTL2 ou de maintenant Virgin avec ça. Et est-ce qu'ils ont raison de mettre ça de côté? Je suis pas certain. Pour moi, ce qui se passe, c'est que le monde est un peu plus complexe que ce qu'il était et que les indicateurs à prendre en compte pour, y compris des acteurs commerciaux, et décider de faire rentrer tel ou tel titre par les tels artistes, c'est plus compliqué. Donc, on met de côté. C'est comme si ça n'existait pas. C'est plus simple.
Le temps avance très très vite dans cette émission. Je voudrais juste vous faire réagir parce que Jean-Baptiste Rock tout à l'heure parlait des réseaux sociaux. Juste faire réagir les deux labels là-dessus. Anne-Laurence, peut-être pour Carton, ces réseaux sociaux, comment vous les utilisez vous?
Alors déjà, nous on fait la musique expérimentale. Déjà, ça pose les choses. Du coup, il y a des réseaux sociaux où on n'ira pas par principe. Type TikTok, aucun intérêt, pas de public là-bas. Voilà, donc on ne va pas. Facebook, on s'en sert comme des vieux, on va dire, parce que j'ai l'impression que Facebook, c'est déjà foutu.
De toute façon, c'est pour les vieux.
Voilà, c'est déjà foutu.
C'est pour nous, du coup.
Ouais, c'est ça. Du coup, les réseaux sociaux, on les utilise au strict minimum pour montrer qu'on a une activité. Moi, il y a un truc qui commence à me poser aussi un autre souci, c'est que on est en France, du coup, on a la chance de pouvoir avoir des subventions. Et maintenant, les subventions regardent clairement combien on a de followers. Il faut savoir que 1000 followers, ça coûte 50 balles. Mm-hmm. J'ai essayé de leur expliquer ça aux subventionnaires parce qu'en fait, c'est un truc qui m'agace un tout petit peu.
Oui.
Du coup, ça me pose souci. C'est est-ce qu'on doit juger une musique sur le nombre de followers qu'on a ? Nous, on est en musique expérimentale. Finalement, quand on a 1500 personnes qui nous suivent, on est déjà ultra connus de notre public de niche. Et ça, c'est un peu compliqué, des fois, de se positionner par rapport à ça. Voilà, il y a plein de réseaux, et c'est comme il y a plein de radios. Par exemple, nous, on n'ira jamais contacter Europe 1, Europe 2, RTL 2 ou tout le reste. Ouais. Il n'y a aucun intérêt pour nous. Et encore mieux, limite, ne pas y être. Du même que d'autres choses comme les Inouïs du Printemps de Bourges, même quand on va un peu plus loin en fait, où on a été une fois et on s'est dit merde, c'est pas du tout notre place, et ça nous a plus desservi que servi. Donc maintenant on sait que notre communication finalement on l'a choisie et on va on fait comme notre musique en fait, on prend des virages un peu serrés et c'est là où ça devient plus intéressant.
Judith, une réaction sur les réseaux, puis après on va passer à la deuxième pause musicale. Alors attends, il manque juste un petit micro, mais ça va arriver. Voilà, c'est parti.
Je rejoins Anne-Laurence encore parce que effectivement, on est toutes les deux dans des musiques de niche. Donc c'est sûr que Europe 1, tout ça, on n'y va pas parce que ça n'a aucun sens en fait.
Et les réseaux sociaux ?
Et les réseaux sociaux, c'était ça le sujet. Nous, je dirais que on fait de la musique du rock progressif, de la musique un peu expérimentale aussi. Et du coup, des fois, on fait aussi des choses expérimentales sur les réseaux sociaux, mais juste pour essayer quoi. Donc du coup, parce qu'on constate aussi qu'il y a des petits revenus en fait par diffusion sur TikTok, ou des fois il y a des trucs incroyables qui se passent, où il y a des gens qui ont visionné des vidéos parce que ça veut dire barbecue dans un autre dans une autre langue, et puis alors on a plein de vidéos de barbecue avec notre musique et donc on gagne un centime avec ça.
Ouais, ok, effectivement, pourquoi pas. Et à quand un réseau social de la musique de niche? Peut-être que c'est à créer, je sais pas, faudrait voir entre radio avec la Ferra, tout ça, on pourrait peut-être y penser. En tout cas, c'est une idée. Je vous propose d'écouter tout de suite un morceau en exclusivité qui nous a été amené par le label Dur et Doux. C'est Willy de Beth of Bethlehem, et derrière il y a Fanny l'héritier. Ça sort le 20 mai. Dig Dig Diggers hors série sur Radio Méga, ici en direct de la Cordeau à Romans, une salle des musiques actuelles dans laquelle nous sommes pour fêter nos 40 ans. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est des concerts toute la soirée, des 7 DJ, des disques à acheter et bien sûr de la radio. On continue avec mes 4 invités à se poser la question de savoir si la musique, les musiques actuelles ont encore besoin de la radio pour exister. Je sais pas, on se dirige doucement vers un oui quand même et heureusement j'ai envie de dire, on va parler un peu plus label, mais avant ça, je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Roch, qui est journaliste à Télérama.
Les labels aussi, à l'image des attachés de presse, hein, puisque souvent en plus ils travaillent un peu main dans la main, ont encore besoin des radios pour faire vivre leurs artistes. C'est assez clair et net chez tous ceux avec qui j'ai pu parler pour cette enquête. Après, avec des différences forcément évidentes en fonction des artistes et des radios ciblées, la radio n'a pas le même rôle pour un artiste rap de 20 ans que pour un artiste comme Alain Chamfort, par exemple. Le cœur de cible n'est pas du tout le même. Donc, de ce point de vue-là, les stratégies sont différentes, mais ça l'a toujours été. Et la radio perdure en tant que média d'importance, comme validation tangible pour les artistes et les labels, plus que par comparaison avec des data numériques, si on veut comparer avec les plateformes de streaming aujourd'hui.
Et on est de retour sur le plateau. Peut-être une réaction, en tout cas une réaction avec Judith de Durédou. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez besoin des associatives indépendantes, finalement, vous, avec vos artistes, on l'a dit tout à l'heure, des artistes de niche. Donc la radio reste un média essentiel pour vous.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des endroits identifiés où on a une place. Donc voilà, en tant que média de niche, on se dirige vers, en tant que label de niche, de musique de niche, et ben forcément, il nous faut des supports, des gens qui nous suivent, des médias alternatifs. Voilà, les radios de la Ferrarock en font partie. Parce qu'on a aussi des formats qui sont pas très conventionnels, c'est pas du radio edit quoi. Donc il faut qu'on cible des gens qui ont aussi des libertés qui sont autres quoi.
Effectivement, et merci Anne-Laurence. Vous m'avez dit que vous étiez dans le numérique depuis MySpace, que ça n'a jamais quitté votre manière de faire le numérique. Et pourtant, Carton, le label, a failli à un moment donné choisir de ne pas aller sur le numérique. Et puis, je crois que c'est vous qui avez un peu poussé pour y aller ? Pour quelles raisons ?
Bah, en fait, c'est vrai que quand on voit ce qu'on gagne en étant sur Deezer et Spotify, pourquoi y être ? Enfin, voilà, c'est un peu la question, pourquoi y être ?
Quand on voit ce qu'on gagne, c'est...
Ah bah nous, pour un label, je vais être claire, hein, le numérique, donc l'achat des albums en numérique, plus le passage Deezer, Spotify et tout le tralala, je crois qu'on gagne 450 euros par an.
Parfait.
Génial.
C'est pas là que se situe notre économie du tout. Hein.
Non.
Voilà, on le voit bien, effectivement, vous décidez d'y aller.
Alors, moi, je décide d'y aller parce qu'à un moment donné, moi, je prends Spotify et Deezer comme un outil. Moi, typiquement, c'est le genre de musique que j'écoute. Et j'écoute peu la radio. Alors, je vais me faire huer, mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup la radio. J'écoute beaucoup Deezer. Je suis une enfant de Deezer parce que je crois que c'est la première... Enfin, voilà, j'ai pris mon abonnement il y a des années. J'ai beaucoup de critiques à faire sur Deezer. Mais c'est vrai que j'y suis et c'est un outil. Et c'est un outil qui peut être formidable. Donc pourquoi s'en priver ? Je trouvais que c'était dommage. Mais effectivement, j'aimais bien le concept politique de ne pas y être. Après, on est petit, pas l'énergie de faire ça jusqu'au bout, je crois.
Bon, vous avez dit que vous aimiez pas la radio, mais
non,
vous...
pas que
vous écoutiez pas la radio. Mais en fait, c'est pas ce que vous m'avez dit quand vous avez eu au téléphone. Vous m'avez dit la radio, c'est l'endroit où je dois être attentive.
Exactement.
Et c'est là que je prends de l'information. En tout cas, que j'écoute beaucoup plus. Qu'une plateforme et son flow où vous laissez couler quoi.
Ah mais pour
c'est
moi
du ronron on m'avait dit
ouais, c'est
le
ça.
Flow.
Bah, le Deezer en fait c'est ma bulle pour bosser. Ouais. Je mets Deezer et en fait il y a plus personne qui existe et je peux vraiment me concentrer. En fait j'ai besoin de musique pour me concentrer. Quand j'écoute la radio je l'écoute quand je cuisine, je l'écoute quand je conduis parce qu'en fait il y a une personne en face et du coup par respect aussi pour la personne qui est en face. Il faut, j'ai une certaine attention et c'est aussi là où je vais découvrir de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, Deezer et Spotify, clairement, ne me font quasi rien découvrir, au contraire des radios, quoi. En fait, c'est vrai que c'est toujours une espèce de ronron, j'entends toujours les mêmes choses. Et quand il y a des nouveautés, ce qui m'agace, c'est parce que M sort son nouvel album, alors que je respecte M, mais je n'écoute pas du tout M, et ça me gonfle de l'avoir dans mon flow, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce que j'écoute.
C'est ça, on est à côté, en fait, de la
plaque. Et donc, tu sais que c'est commercial, du coup, t'es un peu agacé.
Et c'est là que l'algorithme, il marche pas, en tout cas, pour des morceaux que vous produisez dans votre label. L'algorithme, il fonctionne pas derrière, Judith.
Bah, nous, on a besoin de personnes humaines, je pense, beaucoup dans nos... Enfin, tu me contredis si je dis des bêtises, mais pour moi, on a quand même beaucoup besoin de prescriptions humaines, quoi, de gens qui croient en nous, parce que je pense qu'on va passer facilement entre les mailles du filet. Moi, je vois bien les playlists Spotify, des plateformes streaming, en fait, où on pourrait être, mais en fait, on n'a pas eu les 1000... On n'a pas travaillé le single à avoir 1000 streams. Alors en fait, le distributeur va pas nous pousser parce que en fait, voilà. Donc on est dans ce truc là où nous c'est pas du tout notre mode de fonctionnement. On est quand même de base vachement attaché à l'objet physique, le disque et tout ça. Donc on essaye de s'intégrer dans cette industrie musicale qui est très digitale et tout ça, mais on veut aussi respecter nos valeurs. Donc on veut exister de partout, mais pas se renier non plus, quoi.
Vous l'avez tous dit, hein, je crois que vous l'avez tous dit quand on a préparé, vous m'avez parlé de l'humain et j'avais envie de dire ça rassure. Jean-Philippe et Xavier sur une partie, Xavier c'était la... L'humain, c'est la critique, l'humain, c'est la chronique, l'humain, c'est tout ça. C'est important, en fait, d'avoir cette personne derrière le micro, quoi.
Oui, mais c'est un petit peu aussi comme ça que, quand on reprend l'enquête qu'avait fait Jean-Baptiste sur Télérama, il donne un moment la parole aussi à Radio France, qui explique le principe des chroniques et d'à quel point, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, nous autres dans les radios associatives, mais les chroniques dans les matinales de Inter, où il y a 4 minutes de musical à 7h23, les distributeurs et les labels savent que cette chronique-là, quand elle est bien faite et qu'on l'a, ça a un vrai impact plutôt qu'une diffusion, parce qu'à ce moment-là, on décortique le morceau, on l'explique, et c'est aussi des choses que ce format ultra court et ultra formaté qui est très rare et de plus en plus, hein, comme disait aussi Jean-Philippe sur les médias nationaux. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi sur les radios associatives, de savoir par moment ramener, parce qu'on prend le temps, justement, on prend le temps avec les émissions bénévoles, notamment de rester une heure chaque semaine sur un style très précis. On va prendre le temps d'expliquer quel est ce morceau, d'où il vient, à quoi il peut faire penser, comment est-ce qu'il a été fait, et puis de donner un peu des clés de compréhension, parce qu'on va arriver sur des choses qui, dans un flow, par exemple, mélangé à plein d'autres titres enchaînés, on n'aurait pas forcément bien compris ce que c'était, ou de quoi ça pouvait parler, ou comment c'est fait. Donc l'humain, il sert aussi parfois à donner les clés de compréhension de la rencontre avec une œuvre, en tout cas.
Alors, Anne-Laurence, vous m'avez dit le public a plus besoin de la radio que les artistes. ne froncez pas des yeux. C'est-à-dire que...
Bah, je parlais de moi, je pense.
Ah, bah oui.
En gros, je parlais un peu de moi.
Vous
parce
êtes le
que,
public.
Je reste du public.
Du public, tout
exactement.
À fait. C'est important.
Et comme je disais, en fait, je ne découvre rien sur Deezer et Spotify. Je découvre via la radio. Mm-hmm. Et même, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant, parce qu'il y a un truc qui me... En fait, c'est aussi la radio, c'est comme un programmateur d'un festival ou d'une salle de concert. En fait, pour l'artiste, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un humain directement qui lui dit, bah, en fait, ce que tu fais, j'aime. Et en fait, les chiffres de Spotify, on ne sait jamais comment ils sont faits, ni ceux sur Deezer ou quoi, tous les autres. Alors que là, il a été choisi parmi, comme on dit, 60 000 titres qui sont sortis, mais c'est lui qu'on a choisi. Et en fait, l'artiste, ça lui fait du bien, ça le renforce aussi dans son choix. Et c'est comme la programmation en fait, dans des salles de concert et festivals.
C'est bien parce que vous revenez au tout début et à Jean-Baptiste Rock qui disait c'est de la validation. Il y a une forme de validation avec la radio.
Après,
je crois que voilà, Jean-Philippe voulait réagir.
Ouais, là-dessus, c'est vrai que ça peut être une validation quand on sait que quelque chose est un peu difficile à obtenir et qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Néanmoins, j'ai envie de dire que cette validation, elle se trouve aussi peut-être du côté de la presse. Hein. Quand même, il est sur Télérama, voilà, ça compte. La radio avait un avantage qu'elle était la seule à avoir avant justement l'arrivée des internets, c'est de donner l'occasion d'entendre. C'est-à-dire que nous, on vend un produit qu'on peut faire essayer directement. Effectivement, à partir du moment où Internet est arrivé, on s'est retrouvé avec non seulement une capacité à donner cette occasion d'entendre, mais aussi avec d'autres choses autour, du texte, de l'image, ce qui fait que, est-ce que l'artiste musical, il doit être seulement musique, ou est-ce qu'il a le reste autour ? J'ai envie de dire que là-dessus, chacun s'adapte plus ou moins, et il y a des artistes qui sont à l'aise là-dessus, d'autres un petit peu moins.
Merci beaucoup Jean-Philippe. Je vais demander à Xavier, directeur de la Ferrarock, si on peut faire un bis, une deuxième émission spéciale musique sur ce sujet en tout cas d'aujourd'hui, parce que je crois que vraiment ça en appelle une deuxième.
On pourrait en faire une très longue série sans doute.
C'est ça, on fera une série. On va écouter tout de suite Mu, El Día de los Muertos, ça nous vient du label Carton. Merci Anne-Laurence. Et c'est la fin de notre émission Dig Dig Diggers en direct de Romans, l'accordo pour les 40 ans de Radio Méga notamment. On va pas écouter Jean-Baptiste Rock, on avait un dernier son, mais certainement qu'on vous le mettra sur les réseaux sociaux en podcast. On va conclure avec mes invités cette émission. Peut-être un tout petit tour de table sur cette question, la musique a-t-elle toujours besoin de la radio? Peut-être en deux mots de conclusion, Anne-Laurence.
Bah, alors, du coup, je dirais que c'est aussi le public qui en a besoin pour découvrir des nouveaux artistes, parce qu'en fait, ce travail-là n'est pas fait ni par Deezer, ni par Spotify.
Jean-Philippe Béraud.
Je crois que le papier de JB disait « la radio n'est pas morte », je suis d'accord avec lui là-dessus. Peut-être que les difficultés, on ne va pas s'en réjouir, mais des radios commerciales vont faire qu'il y aura un peu plus de place, un peu moins de pression et un peu plus de capacité pour les associatives à faire leur boulot de découverte.
Parfait, merci. Xavier.
Ben, moi, j'en suis forcément convaincu. On est une fédération de radios qui sont là pour faire de la découverte musicale. Donc, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Et ça, on a encore de longues années devant nous, je pense.
Eh bien, Judith, avant de partir vers d'autres horizons.
Dire quelque chose. Non, mais tout a été dit. Et puis, encore une fois, merci les radios. Merci pour votre finesse d'écriture. Tout ça, c'est très important et valorisant, en fait.
Très belle conclusion, merci beaucoup.
Et bon anniversaire.
Bon anniversaire, 40 ans, on resalue Raph, je lui fais des gros bisous, vraiment. Judith Sorel était sur le plateau, elle est chargée de communication pour le label Dur et Doux, accompagnée de Anne-Laurence Chambon, directrice du label Carton et aussi coprésidente de Grand Bureau. Jean-Philippe Béraud, attaché de presse, dirigeant de Martingale, et Xavier Le Boursicot, directeur de la Ferrarock. Merci à Bastien à la technique et merci à Jean-Baptiste Rock de Télérama. À très bientôt pour notre Dig Dig Diggers. Dig Dig Diggers.
Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
Magazine de Jet FM du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débats et conférences publiques organisées par les partenaires de Jet.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous venez d'écouter un hors-série de l'émission Dig Dig Diggers, diffusée sur Jet le mercredi de midi à 13h. La thématique de la rencontre d'aujourd'hui était « Les musiques actuelles ont-elles encore besoin des radios ?» Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast de cette émission sur le site jetfm.fr. À suivre dans l'immédiat, Pensée Locale. Un programme court proposé par la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Tout de suite après, vous pourrez retrouver l'émission littéraire « Je suis venu vous lire ». Bonne soirée sur Jet !